Chapitre 4. Stein, dont la convalescence avançait rapidement, put bientôt, avec l'aide du frère Gabriel, sortir de sa chambre et examiner en détail ce noble édifice, si somptueux, si magnifique, si rempli de chefs-d'œuvre et de richesses artistiques. Placé loin des regards des hommes, entre le ciel et la mer, il avait été la digne demeure d'hommes illustres et puissants qui avaient vécu dans ce couvent, rehaussant leur noblesse et leur richesse par les vertus et les grandes qualités dont Dieu les avait dotés, sans autre témoin que le Créateur et sans autre fin que de le glorifier. Car ils se trompent fort, ceux qui s'imaginent que la modestie et l'humilité se cachent toujours sous la livrée de la pauvreté. Non, les chaumières et les plus pauvres réduits abritent souvent plus d'orgueil que les palais. Le grand portique voûté par lequel Stein avait été introduit conduisait à une vaste cour carrée. Depuis la porte jusqu'au fond régnait une allée d'énormes cyprès. Là s'élevait une grille de fer immense qui séparait la première cour d'une autre aussi longue mais moins large dans laquelle se prolongeait l'avenue des cyprès qui paraissait y entrer d'un pas majestueux et former comme une garde d'honneur au magnifique portail de l'église situé au fond de cette seconde cour. Dans les églises des couvents, l'œil n'était pas arrêté par des objets qui masquent le cœur. Aussi, quand la porte extérieure et la grille étaient ouvertes de toute leur largeur, des degrés de la croix en marbre blanc qui se trouvaient en dehors de l'édifice, on apercevait parfaitement le magnifique maître-autel entièrement doré du pied jusqu'au sommet et dont les ornements couvraient complètement la muraille du chevet du temple. Quand des centaines de lumières se reflétaient sur les moulures étincelantes d'or et les innombrables têtes d'anges qui faisaient partie de l'ornementation, quand les sons de l'orgue s'harmonisant avec la grandeur du lieu et la solennité du culte catholique retentissaient sous les voûtes de l'église trop étroites pour les contenir et allaient se perdre sous la voûte céleste, quand cette scène grandiose se passait sans autre témoin que le désert, la mer et le firmament, on eût dit que c'était pour eux seuls qu'on avait élevé cet édifice et que se célébraient les offices divins. Aux deux côtés de la grille, en dehors de l'allée des cyprès, il y avait deux grandes portes. Celle de gauche, qui était du côté de la mer, conduisait à une cour intérieure d'énormes dimensions. Un vaste cloître, soutenu de chaque côté par 20 colonnes de marbre blanc, régnait tout autour. Son passage était formé de dalles de marbre bleu et blanc. Au centre s'élevait une fontaine alimentée par une noria toujours en mouvement. Elle représentait une œuvre de miséricorde figurée par une femme donnant à boire à un pèlerin. Celui-ci, prosterné à ses pieds, recevait l'eau qu'elle lui présentait dans une coquille. La partie inférieure des murailles, jusque à 10 pieds de hauteur, était revêtue de petits carreaux de faïence dont les dessins, en s'entrelaçant, formaient une mosaïque artistique aux couleurs brillantes. Vis-à-vis de l'entrée se trouvait un escalier en marbre d'une grande largeur, construction aérienne qui semblait n'être soutenue que par ses savantes et habiles proportions. Ces admirables chefs-d'œuvre d'architecture se rencontraient fréquemment dans nos anciens couvents. Les grands artistes, auteurs de ces merveilles, étaient animés par un saint zèle religieux et par le désir et la conviction de travailler pour la postérité la plus reculée. On sait que le premier et le plus populaire de tous, Murillo, n'entreprenait aucun travail sans avoir communié auparavant. Le cloître de l'étage supérieur était supporté par 20 colonnes plus petites que celles de l'étage inférieur. Tout autour, il y avait une balustrade de marbre blanc, fouillée à jour et d'un travail exquis. Sur ce cloître s'ouvraient les portes des cellules en bois d'acajou, petites mais ornées de bas-reliefs. Les cellules se composaient d'une petite antichambre qui donnait entrée à un autre appartement, petit également, mais pourvu d'une alcôve. Dans la principale pièce, le mobilier se composait de quelques sièges en bois de sapin, d'une table et d'une bibliothèque. Dans l'alcôve, il y avait deux chaises et un lit qui consistait en 4 planches sans matelas. Derrière cette cour, il y en avait une autre du même genre. Là se trouvaient le noviciat, l'infirmerie, la cuisine et les réfectoires. Dans ces derniers, on voyait quelques longues tables de marbre et une espèce de pupitre pour celui qui lisait pendant les repas. La partie, située à droite de l'avenue de Cyprès, contenait une troisième cour semblable à celle du côté opposé. C'était là qu'était l'hospice où l'on recevait les étrangers, séculiers ou religieux. On y voyait aussi la bibliothèque, les sacristies, le garde-meuble et différents ateliers. Dans la quatrième cour, où l'on pénétrait par une porte extérieure, se trouvaient, en bas, les magasins pour l'huile, en haut, les greniers. Ces quatre cours, au milieu desquelles s'élevait l'église avec son clocher, semblable lui-même à un immense cyprès de pierre, complétaient ce majestueux ensemble. Le toit se composait d'un million de tuiles dont chacune était assujettie par un grand clou de fer pour les empêcher d'être enlevées par les bourrasques fréquentes sur ce site élevé et voisin de la mer. À raison d'un réal par clou, ce seul détail de la dépense représentait 50 000 douros. La grande cour dont nous avons déjà parlé entourait le couvent par devant, et il y avait, à droite et à gauche de la porte d'entrée, de petites constructions à un seul étage pour loger les journaliers quand les religieux cultivaient leurs terres. C'est là qu'à l'époque où se passe notre histoire, habitait le garde Manuel Alerza avec sa famille. À gauche, du côté de la mer, s'étendait un grand jardin, étalant sous les fenêtres des cellules sa fraîche verdure, ses arbres, ses fleurs, et où l'on pouvait entendre en même temps le murmure de ses eaux, le chant des oiseaux et la clochette du bœuf attelé à la noria. Tout cela formait une sorte d'oasis au milieu d'un désert aride et uniforme, près de cette mer qui semble se complaire dans la ruine et la destruction et qui s'arrête devant une barrière de sable. Mais ce qui abondait le plus dans cette solitude silencieuse, c'était le cyprès et le palmier, véritables arbres de couvent, l'un à formes rigides et austères et se plaisant sur les hauteurs, l'autre non moins levé, mais inclinant ses bras vers la terre comme pour attirer les faibles plantes qui y végètent. Les réservoirs et l'armature entière des norias étaient placés sur des monticules artificiels pour donner de l'élévation aux eaux et étaient cachés sous les voûtes de lierre si épaisses que, l'entrée une fois fermée, on ne pouvait sans une lumière distinguer les objets. L'essieu qui soutenait la roue était porté par deux troncs d'olivier qui avaient jeté des racines et s'étaient couverts d'une couronne de feuillage vert cendré. La végétation à graisse et touffue qui couvrait le toit était le refuge d'une multitude d'oiseaux, heureux d'y cacher leur nid, tandis que le bœuf, tournant à pas lents, faisait résonner la clochette qui lui pendait au cou et dont le silence avait appris au jardinier qu'il se livrait à un doux farniente. Les cellules du rez-de-chaussée donnaient sur une terrasse garnie de bancs de pierre. Les religieux, quand ils s'y asseyaient, pouvaient contempler cette agréable retraite, animée par le chant des oiseaux, embaumée par le parfum des fleurs, et qu'on pouvait comparer à une vie tranquille et retirée, ou, à leur volonté, laisser flotter leur regard dans l'espace, sur ces larges horizons, sur l'immense étendue de l'océan, aussi brillant que trompeur, quelquefois doux et tranquille comme un agneau, quelquefois agités et violents comme une furie, semblables à ces grandes et bruyantes existences qui s'agitent sur la scène du monde. Ces hommes, au profond savoir, aux graves études, à la vie rude et solitaire, cultivaient des fleurs sur leurs terrasses et élevaient des oiseaux avec un soin tout paternel. Car si le paganisme a placé le sublime dans l'héroïsme, le christianisme l'a placé dans la simplicité. Du côté opposé au jardin, un espace de pareille dimension et compris dans l'enceinte du couvent contenait les moulins à l'huile dont les poutres de 50 pieds de long sur 4 de large étaient en bois d'acajou ainsi que les râteliers des écuries et des étables. Conduit par le bon frère Gabriel, Stein put admirer cette grandeur passée, ces ruines proscrites et gémir de cet abandon qui, comme un chancre, dévorait toutes ces merveilles, de cette destruction qui s'empara d'un édifice vide, bien que fort et solide, comme les vers prennent possession du cadavre d'un homme jeune encore et robuste. Le frère Gabriel n'interrompait pas les réflexions du chirurgien allemand. Il appartenait à la catégorie des pauvres d'esprit qui sont en même temps sobres de parole. Il renfermait en lui-même sa tristesse un peu vague, ses souvenirs fidèles et ses pensées quelque peu monotones. Aussi la tante Marie avait-elle coutume de lui dire « Vous êtes un brave homme, frère Gabriel. On dirait que dans vos veines, le sang se promène tout doucement au lieu de courir. s'il vous arrivait un jour d'éprouver quelque vivacité, et cela ne pourrait avoir lieu que si les pères revenaient au couvent, les cloches dans leur clocher et les norias dans le jardin, vous seriez capable d'en étouffer. » Dans l'église vide et dépouillée, il restait encore assez de traces de magnificence pour qu'on pût juger ce qu'elle avait perdu. Le maître-autel, tout doré, si resplendissant quand il reflétait la lumière des cierges qu'allumait la piété des fidèles, était couvert de la poussière de l'oubli. Les charmantes petites têtes d'anges disparaissaient sous les toiles d'araignées. Les fenêtres, dont les vitraux avaient disparu, donnaient entrée aux hiboux et aux autres oiseaux, dont les nids défiguraient les fines moulures des corniches dorées et couvraient d'immondices le riche dallage de marbre. Les autels étaient privés de tous leurs ornements. Ces grandes cariatides d'anges qui semblaient sortir des piliers et qui, jadis, portaient des lampes d'argent toujours allumées, étendaient encore leurs mains vides comme pour exprimer leur douleur. Les riches fresques des voûtes qu'on avait pu enlever étaient inondées par les eaux du ciel poussées par les bourrasques. Le sanctuaire qui, jadis, avait des portes d'argent massif ornées de bas-reliefs de Berugucht était abandonné. Les bénitiers étaient à sec et remplis de poussière. Mon Dieu, quel artiste ne gémirait en voyant ce spectacle ? Quel chrétien ne frémirait d'une douloureuse indignation ? Quel catholique ne se prosternerait en pleurant ? Dans la sacristie, garnie tout autour d'armoires basses, dont la partie supérieure formait une longue table, les tiroirs étaient ouverts et vides. C'était là qu'on serrait autrefois les ornements de velours ou d'autres tissus précieux brodés d'or, d'argent ou de perles. Dans un réduit tout près de là se trouvaient encore les cordes des cloches. L'une d'elles, plus légère que les autres, mettait en mouvement la cloche claire et sonore qui appelait les fidèles à la messe. La seconde ébranlait une cloche, au son puissant et harmonieux, comme un orchestre militaire. Grave et gaie en même temps, et accompagnée d'acolytes moins bruyants, elle annonçait les grandes solennités religieuses. Une troisième cloche, enfin, répandait dans l'espace des sons sourds et imposants comme celui du canon, pour réclamer les prières des fidèles et la clémence du ciel en faveur du pécheur défunt. Stein s'assit sur la première marche de l'escalier de la chaire, supporté par un aigle en marbre noir. Le frère Gabriel s'agenouilla sur les degrés de marbre du maître-autel. « Mon Dieu !» dit Stein en appuyant sa tête sur ses mains. « Ces crevasses, cette eau qui pénètre dans les voûtes et qui, en tombant goutte à goutte, ruine cet édifice par un travail lent et sûr. Cette charpente qui s'affaisse, ces ornements qui tombent en ruine, quel triste et désolant spectacle !» À la tristesse qu'inspire tout ce qui cesse d'exister, se joint ici l'horreur que fait éprouver la vue de tout ce qui périt d'une mort violente et par la main de l'homme. Pauvre édifice, élevé à la gloire de Dieu par des hommes pieux, tu as été condamné à la destruction par leurs descendants. Mon Dieu, disait le frère Gabriel, de ma vie je n'ai vu tant de toiles d'araignée. Il n'y a pas un pauvre petit ange qui n'en soit coiffé. Saint-Michel en a une sur la pointe de son épée, on dirait qu'il me la présente. Si le père prieur voyait cela... » Stein tomba dans une profonde mélancolie. Ce saint lieu abritait des bruits du monde où les rois venaient incliner leur tête altière et les pauvres relever la leur. Ce lieu qui donnait d'austères leçons à l'orgueilleux et de si douces joies à l'humble se voit aujourd'hui déçu et abandonné au hasard comme un bateau sans pilote. Dans ce moment, un vif rayon de soleil pénétra par une des fenêtres, éclaira la partie supérieure du maître-autel et, par son éclat, fit ressortir, comme pour répondre aux plaintes de Stein, un groupe de trois figures qui se tenaient embrassées. C'était la foi, l'espérance et la charité.